Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin, Gwendoline Troyano et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Edouard Rubinstein. Connaissez-vous l'Homo economicus, ce mythe fondateur de l'économie moderne, qui postule que les individus sont des êtres parfaitement rationnels, tout entiers tournés vers la quête de leur intérêt? Mais connaissez-vous l'Homo covidus? Cet individu-là a vu ses comportements économiques bouleversés par l'épidémie de Covid-19. C'est un consommateur inquiet, un travailleur soucieux et un nouvel objet d'étude pour l'économie comportementale. Cette semaine, dans Entendez-vous l'écho, nous suivons les pas de cet être insaisissable. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans votre magazine d'économie. Nous allons parler de l'entreprise et du travailleur au temps du Covid en compagnie de l'économiste Bernard Gazier, professeur émérite à l'université Paris 1. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table avec son journal de l'écho. Bonjour Bernard Gazier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour le premier épisode de cette série consacrée à l'Homo Covidus. Et d'abord, quelle première réflexion vous inspire ce nouveau concept? Le Covid transforme nos comportements économiques?
Oui, parce qu'il y a une incertitude, non seulement majeure, mais reconduite. C'est-à-dire qu'il y a eu le choc, la sidération complète du confinement. Il y a eu ensuite, il faut le dire, la joie, le soulagement du déconfinement, il y a eu des fausses vacances, celles du mois de mars et d'avril. Il y a eu des vraies vacances, alors qu'on aurait peut-être pu dire, bon ok, on a eu déjà des moments d'inactivité, peut-être on peut faire un effort particulier. Pas du tout, on a repris les vraies vacances. Et maintenant, c'est la rentrée. Alors, la rentrée pour les acteurs économiques, qu'est-ce que c'est? De mon point de vue, c'est un mélange de disciplines individuelles, les gens comprennent bien, ils ont fait le confinement, le masque, très majoritairement, est respecté, et aussi d'agacement, et même de colère. Alors, pourquoi cet agacement, cette colère? Tout simplement parce qu'on leur a expliqué au début de la crise que le masque servait à rien, et maintenant on leur dit c'est obligatoire. Alors, ça s'appelle, dans les sciences sociales, une dissonance cognitive, ça veut dire une chose et son contraire, et en plus le dire de manière autoritaire. Donc, il y a quelque chose qui met les gens en rogne. Je pense que l'homo covidus est d'abord un homo fâché.
Un homo fâché, alors à partir du 1er septembre, justement, à propos de ce masque que vous évoquez, Bernard Gazier, il sera obligatoire dans les espaces clos et partagés des entreprises, donc comme les open space. Et selon Santé publique France, les espaces professionnels au sens large représentent un cluster sur quatre. Ce qui est redouté, en fait, c'est la transmission par aérosol, c'est-à-dire par ces fines gouttelettes en suspension dans l'air expiré par les malades. Quel regard est-ce que vous portez sur cette obligation du masque en entreprise, Bernard Gazier?
Bon, écoutez, moi d'abord, je ne suis pas du tout compétent sur la maladie. Donc, je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien du point de vue de la gestion de la maladie, parce que, à vrai dire, comme la plupart des gens, je ne sais pas. Et d'ailleurs, même les spécialistes, comme vous le savez, sont largement divisés. Je dirais que c'est raisonnable. C'est raisonnable, c'est quand même un peu un pis-aller, hein, c'est-à-dire qu'on espérait une rentrée normale. C'est pas une rentrée normale. Alors, il y a eu tout cet épisode où il s'agissait surtout de distanciation, où il y avait cette idée de 4 mètres carrés, puis 1 mètre d'un côté, 1 mètre de l'autre. Bref, tous ces éléments-là, c'était des flottements. Désormais, il y a un choix qui a été fait. Après tout, ce choix est clair. Mais c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de pédagogie. Et je pense, il y a un membre du gouvernement qui l'a dit, quand même, pas mal d'humilité. Parce que quand on se plante de cette manière... Ah, c'est vrai, c'était pour ne pas faire peur aux gens. Hein. Ils disaient, non, les masques servent à rien, puisque de toute façon, on n'en a pas, donc il vaut mieux dire qu'ils servent à rien. Donc il y a eu cet épisode fort regrettable, qui est quand même, qui relève de la catégorie du mensonge, tout simplement. Bon, et maintenant, on inverse. Il y a donc quelque chose de raisonnable, quelque chose qui est coûteux pour les entreprises, et quelque chose qui va gêner certaines interactions de production, pas d'autres, ça dépend. Si les gens se connaissent bien, Si les gens ont l'habitude de travailler ensemble, bah, le masque, ce sera comme une contrainte. J'allais presque dire comme un jeu de piste. Hein, voilà, on se coordonne avec les yeux, on passe par d'autres canaux de communication, tout ça est possible. De l'autre côté, il va y avoir des gens que ça va vraiment gêner. Et il y a des catégories que ça va carrément mettre à l'arrêt. Prenez une prof de danse avec des petits-enfants. Attendez, les petits-enfants, la seule chose qu'ils aiment, c'est se toucher. Ce qui est très, plus important, c'est ça. Et donc, un masque et éventuellement l'interdiction de se toucher, il n'y a plus de cours de danse.
Donc cela va dépendre considérablement des secteurs d'activité. Or, ce que l'on constate, c'est que cette décision est généralisée. Elle est prise pour toutes les entreprises. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Et est-ce qu'il aurait fallu peut-être impliquer davantage les partenaires sociaux dans ces discussions, Bernard Gazier?
Sûrement. Sûrement. Là, nous payons, et ça c'est une des choses que révèle la crise du coronavirus, nous payons une organisation sociale qui est souvent très dominée par les décisions unilatérales et générales, qui a du mal à passer à l'épisode négociation. Ça met en cause l'état des relations sociales et du dialogue social. Le gouvernement affirme qu'il veut faire les deux. Pourquoi pas? C'est vrai que dans la tradition française, ça apparaît comme une chose qui après tout est logique, il suffit de regarder d'autres pays, il y a d'autres pays qui disent non, écoutez, on fait ça pour le commerce, on fait ça pour dans la rue dans certains endroits, on fait ça pour les abattoirs, mais pas ailleurs. Bon, et donc ici, on a tout fait, alors qu'apparemment, il n'y a qu'une partie des clusters qui est en entreprise. Donc là, on a mesures centralisées,
même si la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a tout de même annoncé des adaptations à cette règle, mais elle a exclu des dérogations. Alors, on ne sait pas si la différence est importante, Bernard Gazier.
Bien sûr, en même temps, on tape d'abord et on regarde après. Voilà. Bon, mais ceci dit, je crois qu'il y avait besoin pour cette rentrée d'un atterrissage. Attendez, l'atterrissage est très difficile. Voilà des gens qui soit étaient en inactivité, soit finalement venaient de prendre des vacances et maintenant, paf, tout revient. Donc on est dans une situation extrêmement difficile, pas toujours très aimable. Par exemple, prenez les gens qui étaient en télétravail et ceux qui étaient sur site. Hein, moi, je ne sais pas, les caissières, des gens comme ça, et des gens qui étaient dans l'administration. Oh, mais attendez, ils vont se regarder un peu de travers, surtout tous ceux qui étaient sur site, qui ont eu le sentiment d'avoir été au front, et les autres étant un petit peu déplanqués. Donc là, il y a quelque chose qui unifie, et ça, c'est quand même plutôt positif.
Et qui devrait supporter le coût de ces masques, selon vous, Bernard Gazier? Car effectivement, pour certaines entreprises, qui devraient a priori effectivement payer ces masques, le coût peut être assez important.
Bah écoutez, c'est clair que avec une obligation, c'est l'État qui paye, hein. Et donc c'est aussi ça qui, calme le débat social d'un certain point de vue, parce que ça ne sera ni les entreprises ni les personnes. Et d'ailleurs, le débat est en train de rebondir pour l'école, où on a dit peut-être qu'il faut que les gens.
Est-ce que c'est une fourniture scolaire comme une autre ou pas?
Et ça risque d'être les municipalités, ça risque d'être... Bref, on va trouver un tiers payeur, et ce tiers sera l'État, comme très souvent en France, au lieu d'envisager, moi je sais pas, une négociation collective où on aurait pu envisager autre chose. Mais c'est pas le tropisme français.
Et vous qui connaissez bien le monde de l'entreprise, Bernard Gazier, vous avez commencé à esquisser quelques pistes, mais qu'est-ce que ce port du masque en permanence presque implique, selon vous? Qu'est-ce que ça va changer à la vie en entreprise?
Alors en fait, ça change des choses à court terme immédiatement et peut-être plus gravement à l'horizon de 2-3 mois. À court terme, bah, ça bloque toute une série d'interactions. Chacun est un danger pour l'autre et l'autre est un danger pour vous. Donc ça ne conduit pas à un immense sentiment de solidarité, disons-le comme ça. Ceci dit, c'est le bon sens. Attendez, vu les problèmes qu'il y a, c'est inévitable. Donc peu de solidarité et comme je le disais un peu... Les collectifs déjà bien soudés, ce sera pas un problème. Et pour eux, ben voilà, ok, il y a un truc de plus, on le fait. Pour les collectifs moins soudés, pour les personnes qui viennent d'arriver. Bon, puis je vais avoir une petite pensée quand même pour les malentendants. Je suis moi-même malentendant. Le masque, c'est une catastrophe. Les gens qui lisent sur le visage ont fait comment? Alors on parle de masque transparent, on parle de choses comme ça. Bon, pourquoi pas? Mais on voit très bien ici des interactions qui vont se ruiner. Et pour les petits-enfants, c'est un désastre. Hein. Imaginez une infirmière. Ou un puériculteur, une puéricultrice qui parle à un petit enfant avec un masque. Et bienvenue dans notre monde. Vous voyez ici, là, il va y avoir ça. Mais alors ça, c'est les conséquences de court terme, immédiates. Et à moyen terme, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous avez des masques, si vous avez aussi du télétravail, il faudra qu'on en reparle.
On va en parler.
Eh bien, vous avez, à ce moment-là, l'utilisation immédiate de tout ce que les gens ont su faire avant dans leurs interactions et petit à petit, l'épuisement de ce qu'ils savaient faire. Imaginez une entreprise qui va changer de produit. Imaginez une équipe qui se recompose. Ben, les gens ne se connaissent plus, ne savent plus très bien qui ils sont. Et donc, on va arriver, à mon avis, vers un ralentissement de la productivité, des pertes de productivité. Et ça, ce sera le risque à moyen terme.
On a entendu effectivement le MEDEF redouter que ça crée un climat anxiogène dans l'entreprise. Et cette question sur la productivité des travailleurs, elle est effectivement importante, à côté de la question de la qualité des relations sociales et de la qualité de la vie en entreprise. Ce sont peu ou prou les mêmes questions qui se posent avec le télétravail, qui aujourd'hui recommandé par le gouvernement dans les zones où le virus est actif. Le travail à distance, c'est quelque chose qui rend la communication beaucoup plus compliquée et qui suppose peut-être de repenser l'organisation du travail, Bernard Gazier.
Oui, alors le télétravail est apparu dans la crise comme une évidence. Il y a eu deux évidences. Hein. En Europe, il y a eu le chômage partiel, qui d'ailleurs n'est ni un chômage ni partiel, mais qui est une inactivité le plus souvent totale, et le télétravail. Donc une évidence, des solutions, mais oui, c'est raisonnable, mais bien sûr, mais restez chez vous, et comme ça, vous poursuivez l'activité, vous n'allez pas dans les transports, vous ne prenez pas de risques, donc c'était le compromis idéal, en quelque sorte. Alors, il y a pas mal de malentendus sur l'étendue du télétravail, en particulier sur l'étendue du télétravail avant, parce qu'on voit des titres, à travers l'Europe, la révolution du télétravail. Donc on se dit, oulala, taf taf, tout change, etc. Alors, qu'en est-il ? C'est vrai qu'en France, il y a un côté révolution. Moins dans d'autres pays où ils étaient mieux adaptés. Mais
parce
en France...
qu'on partait de plus loin ?
Pardon ?
Parce qu'on partait de plus loin,
c'est alors
pour
voilà,
cela que c'est une révolution ?
La France a toujours eu beaucoup de réticences, en fait. Alors, les chiffres sont troublants parce que certains chiffres sont donnés et disent, voilà, avant la crise, il y avait 23% de travailleurs, ou d'employés d'ailleurs, oui, voilà, d'employés qui étaient en télétravail. Alors, ce chiffre vient d'Eurostat. Et ce chiffre, il est colossal, puisque finalement, dans les enquêtes qui ont eu lieu après, concernant les seuls salariés, eh bien, on a bondi à 25% de salariés. Alors attendez, si on passe de 23 à 25, c'est pas beaucoup, hein, c'est quand même vraiment un saut de puce. Or non, il y a eu un changement majeur. En fait, les 23% d'Eurostat concernent aussi bien les salariés, et les salariés sont à 3%. Et éventuellement à 6 si on prend tout ce qui est autour.
Le reste, ce sont des indépendants.
Voilà, c'est ça. Des gens qui sont au moins une journée par semaine en télétravail chez eux. C'est ça la définition statistique. Eh bien, ils sont très peu nombreux. Et les autres sont des occasionnels, mais surtout, ce sont les indépendants. Voilà, les indépendants, moi je ne sais pas, des avocats, des juristes, des architectes, des gens qui font des pubs, etc. Ben, eux, ils font ça sur leur ordinateur chez eux. Et ils sont 6 fois plus en télétravail que les salariés.
C'est important de mesurer effectivement l'ampleur de cette révolution du télétravail. On peut aussi se demander si on va vers une généralisation de ce travail à distance en France. Je pense à PSA qui a décidé de faire du télétravail la règle pour toutes ses activités non directement reliées à la production. Et ce qu'on a cru, ce qu'on a constaté avec le confinement, c'est que les managers semblent avoir levé leurs doutes sur ce sujet. Bernard Gazier, c'est ce qu'on a constaté.
Bah, ils sont en train de manger leur pain blanc. C'est-à-dire que, pour l'instant, les gens se connaissent. Les gens ont l'habitude de travailler. Et effectivement, par des téléconférences, on peut se coordonner. Mais attendez, imaginez un véritable apprentissage, quelque chose d'un peu délicat, où il faut être deux sur sa machine, où il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé, etc. Ça ne marchera plus, cette affaire-là. Et donc, d'ici 2 ou 3 mois, il y aura certainement des vraies difficultés. Et donc, effectivement, c'est très bien pour certaines catégories de personnes. Pour d'autres, ça peut être catastrophique. Alors, je pense aussi, tout simplement, à ces personnes qui ont des tout petits logements, qui ont du mal à faire garder leurs enfants, donc ils ont les enfants sur les genoux et l'ordinateur aussi, et on peut difficilement faire plus inefficace que ça. Et donc là, on est face à une véritable souffrance qui peut exister. D'un autre côté, toutes les questions qui se posent, il faudra bien les régler. Qui paye l'ordinateur ? Où est le secret concernant les données de l'entreprise. Quand est-ce qu'on peut faire une déconnexion ? Est-ce que superviseur hiérarchique peut vérifier tout le temps si vous êtes devant votre machine ou simplement vous êtes parti aux toilettes ou si vous êtes en train de vous couper les ongles ?
Alors justement, c'est pour cela que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a demandé, ainsi que d'autres syndicats, à ce qu'une négociation sur le sujet soit ouverte, là où au contraire le MEDEF estime que le dispositif légal est suffisant. Je rappelle que le télétravail a été inscrit dans le Code du travail en 2012 et avec les ordonnances Pénico de 2017, c'est devenu un droit du salarié. L'employeur est désormais obligé de motiver son refus. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez, c'était le 1er mai dernier.
ce que vivent des millions de salariés en ce moment, c'est pas du télétravail. Hein. Le télétravail, c'est pas se partager un ordinateur entre les parents, les enfants qui doivent travailler sur le même. Le télétravail, c'est pas travailler et puis s'occuper des gosses qui sont à la maison. Le télétravail, c'est encadré, c'est tout seul à la maison, sur des horaires bien définis, avec une entreprise qui participe, qui prend en charge les frais de connexion, d'électricité, etc. Donc il faut un accord national sur le télétravail, de façon à ce que les règles soient les mêmes pour l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur entreprise.
Il faut un accord national sur le télétravail, Bernard Gazier.
Oh oui, moi je suis d'accord. Puis cela, la CGT veut bien négocier, donc bon, c'est faut y aller. Hein. Juste une chose, le télétravail, quel est le problème du télétravail? C'est que finalement, cela ramène les relations de travail à des relations purement individuelles. C'est-à-dire que le groupe tel qu'il se constitue sur le lieu de travail, ce groupe n'apparaît qu'épisodiquement lorsque les gens se réunissent en téléconférence, en visioconférence, ou alors lorsqu'ils se retrouvent physiquement, ce qui, de mon point de vue, apparaît infiniment souhaitable. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, derrière cette individualisation, il y a en fait une érosion de la relation salariale elle-même, puisque au lieu d'être appuyé sur une série d'apprentissages collectifs sur finalement la constitution d'un groupe auquel on appartient, eh bien ça devient purement individuel. Et là aussi, imaginez quelqu'un qui n'est pas très à l'aise face à un logiciel. Mais qui va l'aider? Attendez, il va y avoir une hotline simplement. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de plus froid qu'une hotline quand on a un problème informatique? Moi, en tant qu'enseignant à la retraite, j'ai eu le plaisir pendant des années et des années d'avoir des jeunes chercheurs dans mon labo. Quand ça coinçait, j'arrivais l'oreille basse et je disais « Bon, ben si tu venais bien venir voir ce qui se passe. » Alors la personne arrive et dit « Ah oui, quoi ?» Et puis taf, tout est réglé. « Oh, merci beaucoup, pof !» Et donc on part. Je n'accroissais pas ma réputation. En revanche, mon travail continuait.
C'est important que vous dites effectivement, Bernard Gazier, sur cette idée selon laquelle toute performance finalement est collective en entreprise. Et peut-être que c'est cette idée-là qui disparaît de plus en plus avec le télétravail.
C'est le risque. C'est le risque. Il y a en plus d'autres choses. C'est la possibilité en fait d'une auto-exploitation. Lorsque vous êtes en télétravail, bah, vous pouvez dire « je vais travailler la nuit puisque je garde mon gamin », etc. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que les horaires cessent d'être autant normés. Et en plus, le risque, c'est de rester chez vous. C'est malsain de rester chez vous, de mélanger le temps de travail avec le temps domestique, avec le temps de repos. Certains s'en tirent bien, d'autres mal, mais on voit apparaître ici tous les risques possibles d'une atomisation, d'un contrôle qui serait excessif. Vous savez, derrière la relation salariale, il y avait un arrangement, alors qui commence maintenant à devenir un peu démodé, mais quand même qui reste très structurant, c'est ce qu'on appelle la subordination. La subordination, ça veut dire quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande dans le cadre imposé, mais qui n'est pas responsable du reste. Or, désormais, eh bien, de plus en plus, la subordination laisse place à ce qu'on appelle l'allégeance. L'allégeance, c'est des relations féodales. Hein, vous savez, il y a l'allégeance du vassal vis-à-vis de son seigneur. Ça veut dire qu'il est disponible pour aller faire la guerre, même si ça ne l'amuse pas. Et donc là, on peut vous sonner, on peut vous téléphoner, vous avez votre portable, vous avez ceci, cela. Et donc, on peut très bien vous dire, vous laissez tomber tout ça, réponse instantanée sur telle ou telle question. Alors, c'est très amusant quand c'est dans une salle de rédaction de journal ou chez des policiers qui font des enquêtes. Ça l'est beaucoup moins lorsque ça bouleverse des plannings. Et donc, on arrive du côté de l'arbitraire, on arrive du côté du risque des surcharges de travail. Bref, tous ces éléments-là sont de nouveau à normer. Alors, j'en viens à une difficulté supplémentaire. Pour les normer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire du travail de plus en plus formalisé, formaté, cadré, on va découper les tâches précisément, etc. Mais la créativité, c'est pas ça, justement. C'est pouvoir jouer d'une tâche sur l'autre, obtenir rapidement l'assentiment de telle ou telle personne et y aller à deux ou trois ou plusieurs. Donc, voyez, toutes ces machines-là vont devenir des formalismes protecteurs et c'est peut-être ça le plus dangereux.
Et il y a aussi une question plus pragmatique autour des coûts effectivement supplémentaires pour le salarié que vous évoquiez, ou encore même la question de la sécurité et des assurances, le fait que les salariés travaillent à domicile, ça pose aussi toutes ces questions. Mais alors, est-ce que les négociations doivent avoir lieu au niveau interprofessionnel, Bernard Gazier? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'elles se fassent au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche?
Au niveau de la branche, à mon avis. Le niveau de la branche est le meilleur, d'autant plus que certaines solutions au télétravail sont en fait des solutions intermédiaires. Imaginez les gens qui ne vont pas prendre des transports, mais qui vont quand même aller dans un espace qu'on appelle le coworking. Et donc, moi, je ne sais pas, des cybercafés, mais éventuellement dédiée, éventuellement organisée par l'entreprise, avec autant de plexiglas qu'il le faut pour protéger les gens, on va obtenir ces éléments-là. Et ces éléments-là, ben, ça peut relever de l'entreprise. Si l'entreprise est grosse et puissante, ça peut aussi, hein, ça serait bien plus logique, que ce soit des négociations de branche. C'est d'ailleurs un des grands points forts de la France, c'est que c'est une grande spécialité, c'est de savoir faire des négociations de branche.
Alors justement, vous parlez du coworking. Il y a de nombreux travailleurs qui se tournent vers cette solution, donc qui consiste à travailler à plusieurs dans des locaux dédiés, et cela pour retrouver du collectif. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis en 2016 par nos confrères de France Inter.
Moi, j'ai passé 3 ans chez moi en tant qu'indépendante et c'est dur. La vie professionnelle et la vie privée sont mélangées tout le temps. Et ça, c'est très, très dur, en fait. On a envie de voir du monde, on a envie de... Et puis, on s'enferme sur son métier, vachement. On s'ouvre pas du tout. Alors que dans un coworking avec des compétences complètement différentes, eh ben, on va s'ouvrir aux autres.
Quand vous levez le matin, quand vous êtes dans un espace que vous payez, vous bossez. Je travaille mieux, je travaille plus vite. Et donc finalement, le coworking, j'ai une facture à payer, mais je pense m'aura aidé à mieux gagner ma vie et à avancer plus vite. Parce que j'avance 2 fois plus vite en étant ici qu'en étant à la maison. Et c'est une vraie joie à chaque fois de les voir et de les retrouver. Donc ça n'a rien à voir avec la relation que vous pouvez envisager avec un collègue au sein d'une entreprise. Moi, je vois très très peu de contraintes. On n'est pas des collègues. On est, des gens qui sont heureux de se retrouver.
Que vous inspire ces témoignages, Bernard Gazier ? Le coworking pourrait permettre notamment de retrouver de l'inventivité collective ?
Oui, oui. Ça renforce les forts, ça affaiblit les faibles. C'est aussi simple que ça, donc les deux sont vrais. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement ? On en est une forme d'apprentissage. Le niveau, c'était 7% avant la crise, c'est monté pour les salariés. C'est monté, et au sens élargi du télétravail, c'est monté à 25% au mois de mars, et c'est redescendu déjà à 17% en juin. Et maintenant, à la rentrée, à mon avis, ça va redescendre vers 10%, quelque chose comme ça. Bon, et donc, petit à petit, on va apprivoiser la chose. Et à mon avis, pour apprivoiser la chose, il faut bien sûr des accords collectifs. Il faut aussi, à mon avis, un usage tempéré, c'est-à-dire un usage où c'est 2 jours par semaine, peut-être 3 maximum, mais où le présentiel demeure extrêmement important. Faute de quoi, on va casser la créativité.
Mais alors, on a beaucoup parlé des risques, des inquiétudes des syndicats au sujet du télétravail, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages et que un grand nombre de travailleurs qui l'ont expérimenté pendant le confinement, aujourd'hui, voudraient revenir et à nouveau télétravailler, Bernard
Gazier. Oui. Si vous voulez, prenez quelqu'un dans la région parisienne. Pour aller au boulot, 2 heures de transport. Attendez, s'il y a le télétravail, c'est 4 heures de vie par jour, en plus. C'est fabuleux. Là, on est face à une véritable libération pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Donc, on va trouver, selon les cas, des situations où, avec des contraintes de transport, le télétravail va apparaître comme une vraie solution. Maintenant, pour faire des caissières en télétravail, ou des kinésithérapeutes, ou des éboueurs, ça va être plus dur.
Ce serait 8,5 millions d'emplois qui seraient concernés en France par le télétravail, et 19 millions qui en seraient totalement exclus.
Oui, je pense que c'est ça les ordres de grandeur. C'est quand même très important de pouvoir le faire. Les autres pays s'y mettent aussi. C'est comme souvent, c'est beaucoup mieux organisé dans les pays nordiques, et donc c'est souvent bien plus répandu, et c'est quasiment inexistant dans les pays d'Europe de l'Est, et c'est très peu existant dans les pays méditerranéens. On retrouve là l'intensité du contrôle collectif, du dialogue social, de la souplesse, et c'est tout à fait typique.
Et on arrive là à une notion centrale, en effet, puisque le télétravail pose la question de la confiance. Et ce que vous nous dites, Bernard Gazier, c'est que ce qu'a révélé cette épidémie de Covid-19, c'est une crise de confiance profonde au sein des entreprises françaises.
Oui, alors, elle est partout. Elle est d'abord vis-à-vis des experts, elle est vis-à-vis des responsables politiques, et puis elle est aussi dans l'entreprise. Alors, je crois qu'il faut rappeler, d'abord, une chose, avant de parler de confiance ou de défiance, c'est que les Français adorent le travail. Ils ont, dans les enquêtes sur les valeurs collectives, un taux extraordinairement élevé de gens qui disent « mon travail, c'est vraiment important ». Il y a eu un livre, il y a longtemps, qui s'appelait « La saga du boulot ». Ben, c'est ça. Donc, beaucoup de gens sont extrêmement attachés à leur travail. Alors, ceci étant dit, les structures de l'entreprise française sont souvent très hiérarchiques, avec cette énorme distance entre une hiérarchie issue très souvent des grandes écoles, qui n'est pas issue des rangs des travailleurs moins qualifiés. Donc, il y a un peu une strate un peu étanche, en quelque sorte, entre des gens qui ont passé des concours extrêmement difficiles, mais qui, du coup, sont d'emblée dans des positions de sécurité d'emploi très fortes et de domination, et d'autres qui en revanche, et ça c'est le défaut du système français, qui a longtemps été positif mais qui devient un défaut, c'est que ces gens sont souvent pas très bien formés. Souvent, dans le système français, c'est ce qu'on appelle la sélection par l'échec, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne vont pas dans des filières parce que ben, ça a coincé, etc. Donc ces gens ont le sentiment qu'ils auront du mal à aller plus loin dans leur carrière, ils restent enfermés dans un autre niveau, et à ce moment-là, la distance entre ces cadres, souvent un petit peu hors sol, et d'autre part, les gens qui ont le sentiment de trimer, de faire de la vraie production, est très grande, et donc ça induit une défiance vis-à-vis des actionnaires, une défiance vis-à-vis de la direction, une défiance vis-à-vis des cadres. Et voyez, donc, il y a une mécanique ici, que je ne veux pas caricaturer, il ne faut pas exagérer, mais qui en France est quand même assez visible, suite à cette très grande distance entre des salariés qui sont à la base pas très qualifiés et d'autres qui, en revanche, sont une sorte de caste.
Et c'est aussi lié à la structure de l'économie. Quand on voit par rapport à l'Allemagne, où on dit beaucoup que c'est le fait que le tissu productif soit local, régional, aide à améliorer les relations entre dirigeants et salariés.
Oui, alors c'est même plus ancien que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, dans les années 1970, où des chercheurs se sont dit, on va prendre deux usines de chimie, deux usines de textile, l'une en France, l'autre en Allemagne, et chacune de ces usines ont la même productivité, les mêmes performances, elles sont pareilles. Donc il n'y a même pas d'enjeu, vous savez, le côté ces merveilleux Allemands qui sont si forts. Non, on est aussi bons. Hein. Dans les années 70, c'était ça. Et on regarde quoi? On regarde tout simplement la distance entre le salaire moyen des cadres et le salaire moyen des ouvriers. En France, 1 à 3, en Allemagne, 1 à 2. Alors pourquoi ça? Mais parce qu'en Allemagne, un ouvrier est très souvent un ouvrier qualifié, et un cadre, mais c'est souvent un super technicien, donc quelqu'un qui n'est pas très loin de l'ouvrier qualifié. Alors qu'en France, eh bien, vous avez les grandes écoles d'un côté et l'ouvrier très peu qualifié. Alors, est-ce que c'était mal? Mais à cette époque-là, pas encore, pas beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettait d'assimiler des gens. Lorsque, dans les années 60, sont arrivés 2 millions de rapatriés d'Algérie, il y avait 1 million de personnes disposées à travailler. Alors certaines sont venues avec leur boulot, avec leurs capitaux, etc. D'autres se sont évidemment portées sur le marché du travail, et souvent sans aucune compétence.
L'entreprise était le lieu de la formation.
Voilà, et l'entreprise a pu les récupérer tout de suite, et hop, les embarquer, et leur dire, ben, venez avec nous, vous aurez une carrière, on va vous former à l'intérieur d'un certain niveau. Et donc ça permettait ça. Et ce qui fait que dans les années 60, le taux de chômage n'a quasiment pas augmenté avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie. On a un petit peu tendance à l'oublier. C'est d'ailleurs des ordres de grandeur qui font rêver. Hein. Le chômage, c'était 400 000 personnes. Ben, c'est monté un tout petit peu. Hop, c'est monté à 500 000, c'est redescendu. Voilà.
Sauf que ce que vous dites, c'est qu'on paye aujourd'hui prix de cette culture très hiérarchique en France.
Désormais, on ne peut plus faire comme ça. Sans doute, c'était adapté à ce qu'on appelle une économie de rattrapage. C'est-à-dire qu'on faisait la course après les États-Unis, il fallait faire les champions nationaux, etc. Et donc absorber de la main-d'œuvre. Bon, ça s'est fait comme ça. Désormais, on ne peut plus. Désormais, c'est beaucoup plus exigeant. Et donc, effectivement, on paye les qualités du système antérieur.
Alors, cette crise de confiance que l'on constate au sein des entreprises françaises, comment l'expliquer et surtout comment recréer la confiance? On va en parler dans un tout petit instant.
Moi j'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore. Moi j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors. Moi j'ai envie d'être en vie, de parler encore plus fort, et d'être avec mes amis qui me parlent des rivières du Grand Nord, des grands torrents qui s'en viennent pour soulever, couler les champs, mouiller les dents, noyer les larmes qui recouvrent nos parents, mouiller la peur des caresses qui donnent peu en demandant, foutre le bordel dans les lits qui pleurent d'être morts en bonheur. Viens, prends ma main, je te donne la mienne, sans peine on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces derrière nos pas sur la fine glace. J'ai enfin retrouvé mes patins, remets les tiens, je te donne la main. La vie est belle une fois chez elle, chaud dans ses bras, je n'ai plus peur d'elle. Chaud dans ses bras, même si on gèle, vive avec elle, je t'offre mes ailes. Moi j'ai confiance.
confiance de Philémon Simon sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Bernard Gazier et nous parlons des nouveaux travailleurs à l'heure du Covid. Alors Bernard Gazier, avant la musique, vous nous disiez que l'épidémie actuelle avait révélé la crise de confiance qui touche les entreprises françaises. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette défiance entre salariés et dirigeants? Est-ce que c'est d'abord lié à la faible syndicalisation en France?
Alors, je crois que c'est lié à quelque chose qui est la fin des grands champions nationaux. En fait, les grands champions nationaux généraient la confiance. Il y avait l'idée, voilà, des grandes entreprises qui sont là, on peut compter sur elles, on a une emprise sur le commerce international. Et ce qui s'est passé petit à petit, c'est que le capitalisme français s'est déterritorialisé. C'est-à-dire que le succès de ces très grands champions s'est manifesté, à vrai dire, c'était plutôt logique, par des alliances avec des entreprises à l'extérieur de la France, et donc finalement par un capitalisme qui, dans sa version la plus puissante, est apparu comme un capitalisme hors sol. Alors, pour le caricaturer, si vous êtes ouvrier chez Volkswagen, vous savez qu'en gros, un tiers des emplois qui sont générés par Volkswagen resteront en Allemagne et qu'on s'arrangera pour qu'ils soient compétitifs. Si vous êtes ouvrier chez Renault ou chez Peugeot, chez Renault ça va pas bien et chez Peugeot on recrute des intérimaires. Oui, c'est vrai que l'industrie automobile n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus du tout l'agent stabilisateur. Mais malgré tout, l'internationalisation des entreprises françaises est très supérieure. Alors une réponse à ça, c'est évidemment la codétermination.
Et on va y venir bien sûr, mais je voudrais d'abord illustrer vos propos avec un extrait du film de Stéphane Brizet, En guerre, qui raconte justement le combat des ouvriers d'une entreprise d'Agen pour sauver leurs emplois. On écoute.
Stop. Non mais on a un problème de stratégie là. Laurent expose son point de vue avec Mélanie, nous on a un autre point de vue. Moi j'ai, à la limite j'ai envie de poser la question à Laurent directement. Ton syndicat il pèse combien? Pas combien t'as? Mais non c'est pas petit. Mais non c'est pas nul, c'est pas petit.
Ça y est on y arrive. Donné, faut qu'il ça y est on y arrive. Ton syndicat il pèse combien?
Non, c'est pas petit.
Mais tu te rends compte de la question d'imbécile que tu poses?
Ouais je me rends compte de la question. L'important c'est que le syndicat indépendant de Père Industrie représent avec Bruno et quelques-uns ici, on est le plus représentatif.
Ouais.
Et donc notre point de vue, faut quand même l'entendre un peu plus que votre point de vue.
Le plus représentatif de quoi, Olivier?
Action professionnelle.
Mais c'est dire ça, je vais vous dire pourquoi. Mais quand on va être au chômage, on s'en foutra complètement de savoir qui appartenait à tel syndicat ou tel syndicat. Ça n'a aucune espèce d'importance savoir s'il est plus représentatif ou moins que l'autre. Tout ce que je vois, c'est qu'on a signé un accord avec la direction il y a 2 ans. Voilà qu'ils nous ont trahis, qu'ils n'ont pas tenu leur parole, qu'on s'est fait enfler tous ensemble. Tous ensemble, on s'est fait enfler. Et donc maintenant, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on se batte. Tous ensemble. Parce que sinon, si l'usine elle est fermée, c'est terminé. T'auras plus jamais de travail, toi. Toi non plus, plus jamais de travail. Plus jamais de travail. T'as quel âge? T'as 55 ans? Alors tu vas faire quoi? Tu vas toucher 12 mois de congé de reclassement, 2 ans de chômage et encore pas plein pot pendant toute la durée. Et après? Il va falloir que tu tiennes quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans avant la retraite?
Vous avez reconnu la voix de Vincent Lindon. Dans cet extrait, il s'oppose aux syndicalistes qui sont prêts à négocier avec la direction pour obtenir une majoration des indemnités de licenciement, alors que lui veut continuer à se battre pour tenter de sauver leurs emplois. Qu'est-ce que cet extrait vous inspire, Bernard Gazier? Le syndicalisme français a souffert et souffre encore de ces divisions?
Oui, indiscutablement, le syndicalisme français est divisé. Alors, il faut dire que les restructurations, c'est un effort terrifiant. C'est une épreuve. Il n'y a rien de plus difficile, de plus violent qu'une restructuration, qu'une perspective de fermeture d'entreprise ou de destruction d'emplois. Si vous voulez, sur l'échelle des ondes de choc psychologiques, apprendre qu'on va supprimer votre emploi, c'est juste un petit peu moins violent qu'apprendre la disparition de votre conjoint dans l'hypothèse où vous l'aimez. Et donc, nous sommes face à quelque chose qui est d'une violence psychologique inouïe. Ça, il faut le dire tout de suite. Les gens ont l'impression qu'on leur coupe les jambes. Voilà. Alors, pourquoi cette violence en France est-elle peut-être plus démultipliée qu'ailleurs? C'est qu'en fait, revenons sur ces entreprises qui recrutaient des gens faiblement qualifiés. Elles se préoccupaient très peu de savoir si les compétences étaient transférables. Et même au contraire, si les gens avaient des compétences qui n'étaient que pour l'entreprise qui les recrutait. Mais tant mieux, ils resteront, ils seront fidèles, ils sont coincés. Et donc, on voit très bien apparaître ici quelque chose qui longtemps a été l'outil d'une stabilisation. Et alors, dedans, tout s'y est mis. Valorisation de l'ancienneté, croyance dans l'éternité de l'entreprise. Et donc, si jamais il y a un enjeu quelconque de restructuration, zéro confiance, ils vont nous mentir. Et de fait, ça s'est vu, bien sûr. Et surtout, zéro perspective de reclassement. Mmh. Donc, on est face à une mécanique qui déjà rend les choses en France extrêmement difficiles. Alors à partir de là, tout se durcit. Et dans l'exemple qui a été donné, on le voit très bien. Mais c'est vrai que la tradition française est très complexe parce que vous avez trois types de syndicats. Pour caricaturer, c'est comme dans une cour de récré, il y a le jeu des trois coins. Il n'y a pas quatre coins, il y a trois coins. Il y a un premier coin, le plus ancien. C'est ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. C'est là où il y a la CGT, la charte d'Amiens, on négocie très peu, on dit qu'on négocie pas, en fait on négocie. Mais on préfère dire je négocie le Grenelle, je négocie les grands trucs, les grandes ruptures historiques, et c'est un syndicalisme d'opposition, on est contre le capitalisme, on veut pas co-gérer, etc. Donc, ça c'est le coin numéro un. Le coin numéro deux, c'est le coin je négocie toujours parce qu'il y a ce qu'on appelle le grain à moudre. Alors le grain à moudre, c'était l'expression de M. Bergeron, qui était le leader de Force ouvrière. Et pour le dire, par rapport à la CGT, c'était les jaunes, c'était les traîtres, c'était ceux qui, de toute façon, allaient négocier, même s'il y avait très peu de choses dans l'assiette à récupérer. Et puis entre les deux, troisième et dernier coin, il y avait la CFDT, syndicalisme chrétien autogestionnaire, qui dit « Ah ben de temps en temps je négocie, de temps en temps je négocie pas, j'ai un projet de société mais il n'est pas frontalement opposé au patron ». Donc voilà, donc vous aviez ces trois coins.
Alors, les choses ont-elles vraiment changé, Bernard?
Alors, eh bien, de temps en temps ça change et de temps en temps ça se rebloque. Et donc on le voit de manière assez amusante dans la crise, mais avant ça, il faut le voir en 1995, au moment où un conflit très compliqué a fait que Force ouvrière a perdu la responsabilité et surtout les ressources de l'assurance maladie. Et donc, c'était des ressources très importantes pour un syndicat qui négociait, ça permettait de payer des gens, etc. Bon, tout ça a été capté par la CFDT. Et depuis cette époque, Force ouvrière, qui est assez hétéroclite, qui a à la fois des gens ultra-réformistes, bien sûr, mais aussi des trotskistes, eh bien, Force ouvrière a pris une posture très souvent oppositionnelle. Puisque c'est comme ça, je ne négocie plus. Alors, à ce moment-là, ça redistribue les positions. Regardez, il y a eu Bernard Thibault qui est apparu et qui a dit de manière très rassurante, mais nous allons être pragmatiques, nous allons négocier de temps en temps, pas tout le temps. Donc, prenons la place de la CFDT. Et la CFDT, vainqueur de cette assurance maladie, est apparu comme le profiteur du système, comme le faillot, comme le social traître.
À vous entendre, c'est un jeu de chaises musicales.
Alors, c'était absolument. Et il y a eu des pierres qui ont été lancées sur la voiture de Nicole Notta. Il y a eu des choses extrêmement violentes. Alors, ça, c'était en 95. Et depuis, eh ben, ça dépend des moments. Alors, Force ouvrière est en train de revenir dans un jeu beaucoup plus négocié. C'est plutôt la CGT qui a repris le rôle oppositionnel et la CFDT, ben de temps en temps, on l'accuse d'être un social traître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les syndicats? Ça veut dire qu'ils soient divisés, qu'ils soient, je dirais, différents. Et ça, c'est bien. Attendez, il y a des stratégies différentes. Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'elles soient lisibles, ces stratégies. Or, elles ne le sont pas. Elles sont instables et surtout, les choses se bloquent. Chacun surveille l'autre pour essayer de le coincer. Et donc ça, c'est la recette qui permet de comprendre quelque chose qui est quand même ultra triste. On est face à une crise hyper violente, la plus difficile qu'on a depuis 50 ans, et les syndicats n'ont même pas pu faire une déclaration commune.
Et c'est pour cela que les taux de syndicalisation ne cessent de diminuer. Et à cela s'ajoute aussi une autre transformation, la transformation des comités d'entreprise, CHSCT et délégués du personnel en une instance unique, le comité social et économique, le CSE. Quel a été l'impact de cette fusion instituée par la réforme du Code du travail de 2017, Bernard Gazier?
Alors pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on verra d'ici 3, 4, 5 ans le type de garanties, d'accords, de pratiques qui ont été générées. Mais ce qu'on peut supposer, et ça c'est une hypothèse assez raisonnable, c'est que juste au moment où on a besoin de lier sécurité de l'emploi et sécurité sanitaire, eh bien, juste à ce moment-là, les capacités d'expertise sont diminuées. J'espère qu'il y aura des négociations de branches dans lesquelles on donnera plus de moyens à ces entités pour au moins revenir à la capacité d'intervention qui était la leur avant cette réforme qui tombe on ne peut plus mal.
Bernard Gazier, vous avez comparé le moment que nous vivons aujourd'hui avec la révolution de 1848. On va en parler, mais d'abord, je voudrais vous faire entendre un extrait du Système des contradictions économiques de Pierre-Joseph Proudhon. Ce texte a été écrit en 1846, 2 ans avant les barricades, et il est lu en direct par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
En vertu du principe de force collective, les travailleurs sont les égaux et les alliés de leur chef. En sorte que dans le système du monopole même, la communauté d'action ramenant l'équilibre que l'individualisme parcellaire a troublé, la justice et la charité se confondent. Comment donc, avec l'hypothèse que la bonté essentielle de l'homme, expliquer la tentative monstrueuse de changer l'autorité des uns en noblesse et l'obéissance des autres en roture? Le travail, entre le serf et l'homme libre, a toujours tracé une ligne infranchissable, et nous-mêmes, si glorieux de notre philanthropie, nous pensons au fond de l'âme comme nos prédécesseurs. La sympathie que nous éprouvons pour le prolétariat est comme celle que nous inspirent les animaux. Délicatesse d'organes, effroi de la misère, orgueil d'éloigner de nous tous ceux qui souffrent. Voilà par quel détour d'égoïsme se produit notre charité.
Bernard Gazier, en quoi cette réflexion de Proudhon sur les rapports de hiérarchie nous intéresse-t-elle aujourd'hui ?
Je trouve cette citation terrifiante. Je trouve que la distance que ça installe a quelque chose de monstrueux. Alors, nous n'en sommes plus là, heureusement. Et je pense que en même temps, nous n'avons fait que la moitié du chemin, parce que justement, toutes ces personnes qui ont peur de retourner à l'école, toutes ces personnes qui, finalement, n'ont pas confiance dans la possibilité de s'adapter, de finalement faire des démarches de reconversion professionnelle, toutes ces personnes qui sont bloquées sont prises dans ce jeu de mépris réciproque. Et donc, il y a quelque chose là-dedans, à mon avis, d'extrêmement violent. Alors, Proudhon a un côté... en même temps merveilleusement libérateur. C'est-à-dire que pour lui, le travail, c'est la dignité de l'homme. Et là-dessus, je crois qu'on ne peut que le rejoindre complètement, sachant que désormais, le travail, c'est la même chose que les capacités, c'est la même chose que l'apprentissage individuel et l'apprentissage collectif. Et donc, c'est en fait quelque chose qui, quoi qu'on en ait dit, est une valeur en pleine expansion.
Est-ce que vous dites, dans cette tribune que vous avez corédigée avec Olivier Favreau, qui est paru dans Les Échos le 21 juillet dernier, qui appelle à mieux partager le pouvoir au sein de l'entreprise, on va en parler, mais ce que vous dites, c'est qu'on vit un moment particulier aujourd'hui, comme en 1848, et qui permet de repenser le rapport à l'autorité et justement au partage du pouvoir au sein de l'entreprise.
Oui, c'est malgré tout un enjeu de long terme. C'est-à-dire que, il y a une petite fenêtre de tir. On peut se faire écouter, un petit peu comme par rapport à il y a un an ou deux, on pouvait pas parler à un Allemand. Ah, maintenant, on peut parler un Allemand, hein, et on peut dire, vous savez, quand même, ce qui se passe dans les pays d'Europe du Sud, c'est pas bien, la solidarité budgétaire, c'est vraiment important. Mais c'est un petit peu du même ordre. On se rend compte que, au travers du choc du coronavirus, au travers de la crise de confiance, moi, je crois qu'en fait, les gens ont besoin d'être davantage associés aux entreprises auxquelles ils appartiennent. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Regardez, le problème de la crise d'information. Prenez un syndicaliste suédois. Cet syndicaliste suédois, il a dans sa centrale syndicale un centre d'expertise économique qui est plus puissant que celui du gouvernement. Et il sait que les experts du syndicat vont dire au gouvernement suédois « Ah bon, vous dites que c'est ça l'évolution, attendez, on va comparer avec notre modèle parce que nous, c'est pas exactement pareil, donc on va regarder. » Imaginez la force que ça donne par rapport à des capacités d'expertise, par rapport à des autonomies qui sont très difficiles à conquérir. Et moi, je pense vraiment qu'il faut faire confiance aux gens, c'est tout. Alors, c'est vrai que l'idéal, je dois le dire, chaque fois je me fais massacrer, chaque fois que je le dis, l'idéal, ça serait qu'il y ait une petite fusion syndicale, moi je sais pas, hein. Vous savez, ça s'est vu, AFL-CIO, ils ont fusionné un moment. Bon, bah écoutez, à mon avis, il y aurait deux grands syndicats français, je ne dis pas lesquels, surtout, parce que sinon on va me tuer. Mais s'ils se mettaient ensemble... ça aurait une autre allure.
Alors, il y a la fusion syndicale, mais il y a aussi le principe de la codétermination qui existe en Allemagne, qui existe dans les pays du nord de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe et nous expliquer pourquoi aujourd'hui ce principe vous paraît intéressant dans le cas français ?
Alors, d'abord, ce principe existe en France. Hein. Il existe en France. C'est tout simplement le principe par lequel des représentants du personnel sont membres des entités qui décident dans l'entreprise, hein, que ce soit des conseils d'administration ou différents types de comités, etc.
C'est qu'il est bien plus développé
voilà.
À l'étranger.
Alors, la vraie codétermination, c'est 50-50. Hein. Il y a moitié des représentants des salariés, moitié représentants du patronat, avec une voix de plus pour le patronat, pour que la stratégie corresponde à celle des détenteurs de capitaux. Hein, c'est ça le deal. Mais très souvent, vous avez des dispositions où c'est 30% de salariés qui sont administrateurs, et ça change tout, parce que ça veut dire que D'abord, les gens sont au courant de ce qui se passe parce qu'on va leur raconter. Au lieu de leur apprendre, voyez, le pire pour les restructurations, c'est personne ne dit rien. Vous savez, le syndrome de Cassandre, le premier qui dit quelque chose, il déclenche, en fait, le cataclysme. Donc, surtout ne rien dire. Tout le monde sait que ça va pas bien dans cette entreprise, qu'il y a quelque chose qui commence à devenir difficile dans le groupe, que les gens viennent voir, etc. Tout le monde se tait. Et donc, on obtient ce chef-d'œuvre qu'on voit de temps en temps en France, c'est le dire le plus tard possible. Hein, je t'aimais tellement que je vais te dire le plus tard possible que je t'aime plus. Bon. Donc, on arrive vers quelque chose qui est épouvantable, parce que du coup, les gens ne peuvent pas se retourner. Imaginez qu'on dise les choses avec 6 mois, avec 1 an, en disant, vous savez, ça ne va pas bien, etc. Eh bien, la codétermination permet ce mauvais côté, et permet surtout d'associer les gens à tout ce qui est prospérité de l'entreprise, compréhension de ce qui se passe, et donc, à mon avis, c'est ce qui permettrait de rassembler les points de vue syndicaux de manière bien plus efficace.
Et comment expliquer le retard français? Qu'est-ce qui a bloqué Bernard Cazy dans l'histoire?
On vient d'en parler. Des cadres hors sol, des capitaux déterritorialisés, des expériences ultra négatives de gens qui n'ont pas les qualifications. Prenez les dames de chez Moulinex en Normandie, prenez les ouvriers chez Célatex dans la Meuse. Ceux-là, ils ont menacé d'empoisonner une rivière. Ça montre un degré d'angoisse et de désespoir qui est quelque chose d'inouï. Alors à ce moment-là, comment ça se passe en France? L'État va arriver. Et donc on va voir arriver un représentant de la préfecture avec plein d'argent pour essayer de calmer les gens. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez, juste, vous nous redonnez le même emploi qu'avant et on n'en parle plus. Voilà. Or ça, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Alors en revanche, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui a été dit par Vincent Lindon tout à l'heure. Pendant 1 an, il y aura ceci, puis ensuite, petit à petit, vous serez chômeur. Les gens n'y croient pas. Et ils préfèrent même avoir une grosse indemnité de licenciement, désormais, plutôt que d'avoir les restructurations. Or, l'enjeu majeur d'aujourd'hui, il est simple. Il faut organiser des carrières avec mobilité protégée qui redonnent confiance. C'est possible et c'est devant nous.
Alors il faut quand même rappeler que c'est en 2013, pendant le mandat de François Hollande, que la loi de sécurisation de l'emploi a introduit en France pour la première fois 1 à 2 salariés dans les conseils des grandes entreprises. Et la loi Pacte voulait avancer dans ce sens. Est-ce que ça a été le cas, Bernard Cazy?
Un petit peu. Mais c'est un peu homéopathique tout ça. Il y aurait un vrai signal en disant, écoutez, dans telle catégorie d'entreprise, c'est 30%. Ça aurait une autre allure. Et donc ça fait partie des messages qui pourraient sécuriser les travailleurs.
Et alors, on peut se demander si, par exemple, la présence de salariés dans les conseils d'administration permettrait de faire avancer au sein des entreprises la cause de la relocalisation, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ou encore la cause de la transition écologique. Bernard Cazy, est-ce que ce n'est pas un peu naïf de penser que nécessairement la présence de salariés irait dans ce sens?
Si. Bien sûr que si. Les salariés sont pas toujours spontanément très écologiste. Hein. Il dit, si on protège mon emploi, tout va bien. Bon, bah, attendez, si votre emploi est polluant, s'il est sale, s'il est ceci, cela, il faudrait mieux regarder. Donc, il y a bien sûr ce côté-là. Et puis, il y a un autre côté, c'est que les relocalisations, faut pas être naïf, les relocalisations se feront à l'échelle de l'Europe. Et donc, il y aura nécessairement beaucoup de relocalisations dans les pays de l'Est, pour deux raisons. D'une part, les salaires sont plus faibles alors que les qualifications sont fortes. Et d'autre part, ils ont une plutôt meilleure tolérance à la pollution que chez nous. Donc, on est face à une situation où les espoirs des relocalisations sont suspendus à une coopération européenne qui en est vraiment à ses balbutiements.
Alors la codétermination, c'est effectivement un concept intéressant, mais qu'on a peut-être on a peut-être tendance à mettre trop de choses dans ce concept, ou peut-être y placer trop d'espoir. Je voudrais vous faire entendre à ce sujet Olivier Favreau, que vous connaissez bien, c'était le mois dernier.
Les pays qui pratiquent la codétermination ont deux caractéristiques. Elles ont un mouvement syndical puissant, et en même temps ne sont pas les plus maladroites dans la compétition internationale. Donc ça devrait faire réfléchir ceux qui s'opposent à l'extension de la codétermination sur le registre de faire entrer la contestation syndicale à l'intérieur des conseils d'administration, et sur le registre aussi de ça crée un obstacle aux ajustements nécessaires à l'intérieur des sociétés. Ce qu'on appelle classiquement le conflit capital-travail, et il ne faut pas se voiler les yeux, il y a un conflit d'intérêts, même s'il y a une zone de coopération tout à fait nécessaire. Cette zone de coopération et de conflit, il est préférable, au fond, qu'elle se déroule le plus près possible de l'endroit où se prennent les décisions, à l'intérieur de l'entreprise, plutôt qu'à l'extérieur, au niveau des branches et au niveau des syndicats, des négociations syndicales ou des négociations sociales qui sont sur un espace plus large extérieur à l'entreprise.
La codétermination est nécessaire, mais pas suffisante pour recréer la confiance entre dirigeants et salariés, si l'on comprend bien Olivier Favreau.
Oui, la codétermination plus le dialogue social. En fait, les deux sont liés. Hein. Mais il faut vraiment les deux, parce que le dialogue social, la possibilité de négocier sur tel ou tel point, en relative confiance, avec des accords qui sont tenus, ben c'est évidemment un point clé. C'est ce qui permet d'adapter à différents secteurs, différents contextes, etc., au lieu d'avoir justement ces décisions qui sont totalement homogènes et unilatérales.
Ce qui s'oppose à la mise en place ou au développement de la codétermination, c'est cette idée développée par exemple par Milton Friedman, selon laquelle les entreprises appartiennent à leurs actionnaires. Or, ce que vous nous dites, vous, Bernard Gadier, c'est que les salariés investissent dans l'entreprise au même titre que les actionnaires ?
Oui, oui, oui. Alors moi, je partage tout à fait le diagnostic d'Olivier Favreau, hein, qui est de dire le fait que l'entreprise n'appartiendrait qu'à ses actionnaires est en fait une... disons une mystification sociale. Hein. En fait, l'entreprise, c'est évidemment tout ce que les gens font tous les jours. Et donc, il y a bien sûr les apporteurs de capitaux, mais il est évident que l'entreprise est une réalité avec multiples acteurs, multipolaires, et le pôle salarié, le pôle du travail est évidemment tout à fait central. Alors, ça remet en cause la propriété. Et donc, on se retrouve un peu chez Proudhon. La propriété, c'est le vol.
Et donc, c'est important pour vous, Bernard Gazier, de rappeler que l'entreprise, c'est un espace politique, surtout dans la période que nous vivons aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est pas fondamentalement et d'abord un espace politique. Moi, il me semble que c'est un espace qui a des répercussions politiques, mais ça n'est pas une arène politique. C'est un lieu de coopération et de conflit, comme l'a dit Olivier Favreau, mais c'est un lieu dans lequel, finalement, les parties prenantes constituantes doivent pouvoir s'exprimer et doivent pouvoir se sentir solidaires des décisions qui y sont prises.
On arrive au terme de cette émission. Bernard Gentier, un dernier mot peut-être sur le rôle de l'entreprise dans la société. On se rappelle que la loi Pacte a introduit cette notion de raison d'être de l'entreprise, mais aussi sur la place que devrait y occuper le travailleur, selon vous, dans cette période qu'on traverse si particulière et qui a des contraintes si spécifiques.
Là, je suis un petit peu interloqué parce que finalement, la raison d'être de l'entreprise, c'est certainement de produire, hein, voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que dans les enjeux d'aujourd'hui, produire, oui, mais pas n'importe comment. Et donc là, on arrive vers, effectivement, la prise de conscience de l'écosystème, la prise de conscience aussi d'une série d'environnements qu'il s'agit désormais beaucoup plus d'aménager de manière consciente. Si on prend les circuits courts, si on prend les territoires, si on prend, malgré tout, certaines perspectives de relocalisation, on arrive vers des espaces où, finalement, l'entreprise, avec une raison d'être élargie, avec ces missions qui vont au-delà simplement du fait d'être profitable et de produire, bien c'est l'entreprise de demain.
Merci beaucoup Bernard Gazier de nous avoir accompagné tout au long de notre réflexion sur ce nouvel Homo Economicus apparu avec le Covid. On mettra sur la page d'Entendez-vous l'écho le lien vers la tribune que vous avez corrigée avec Olivier Favreau qui est paru dans les Échos. Un grand merci à vous. À 14h53 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Xavier Martinet. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
De même Tiffaine, bonjour. Bonjour à tous.
Le coronavirus n'a pas seulement grippé les économies de la planète, il a aussi entraîné une nouvelle réflexion sur la pertinence des grands indicateurs économiques.
Oui, c'est un peu comme cette scène du roman de Saint-Exupéry, Vol de nuit, lorsque l'un des pilotes est pris dans une tempête et que les aiguilles des indicateurs de position oscillaient de plus en plus vite, devenaient difficiles à suivre. Sous l'effet de la crise sanitaire, les grands indicateurs économiques sont devenus des instruments presque inutilisables tant leurs variations ont été fortes. Plusieurs points pour les PIB, produits intérieurs bruts ou les taux de chômage. Symptôme 1, l'un d'entre eux de la confusion, le 14 juillet, Eurostat qui publie les données mensuelles pour la zone euro, publiait les statistiques industrielles du mois de mai avec un mois de retard. Il a donc fallu se mettre à naviguer à vue, d'où la prudence de Bruno Le Maire le 15 avril.
Nous avons retenu, comme le Premier ministre vient de vous l'indiquer, une prévision de croissance à moins 8% pour l'année 2020. C'est un chiffre élevé, ce n'est pas un chiffre définitif. Nous avons révisé ce chiffre de croissance au vu de trois éléments, la durée du confinement, la progressivité de la reprise économique, et en troisième lieu, c'est le point le plus important, en raison des fortes incertitudes qui pèsent sur le développement de la crise économique partout dans le monde.
Et oui, compliqué de modéliser le risque sanitaire. L'incertitude reste la vraie découverte de ce confinement, puisqu'on apprenait hier que la baisse du PIB s'orienterait plutôt vers les 11%. La crise est brutale, les conséquences cinglantes. Pour l'éditorialiste aux Échos, Jean-Marc Vittori, la semaine dernière, le confinement a tout simplement envoyé dans le décor les statistiques classiques de l'économie.
En somme, Xavier, les prévisions sont difficiles et les statistiques aussi deviennent floues, voire carrément impossibles.
Oui, le problème est que pour être le plus exact possible, la statistique doit se nourrir d'un grand nombre de données compilées sur un temps très long. Le PIB est utilisé mondialement depuis les années 30 et c'est dès la fin du 19e siècle que se généralise le calcul de l'inflation. Il y a donc une certaine inertie à cette technique, nécessaire à son existence, permise aussi par les habitudes de consommation qui changent lentement. Or, cette fois-ci, notre Jean-Marc Vittori, achats et production ont basculé en 3 jours et les indicateurs ont été en quelque sorte pris de court par la brutalité du choc. Le confinement a rendu impossible les enquêtes d'opinion, les achats en ligne ou dans des commerces de proximité, la nécessité de nourrir tout un foyer à domicile ont achevé de brouiller les indicateurs de consommation. Quant à l'inflation, elle, son calcul est devenu inopérant, explique la spécialiste du sujet Florence Janicatrice, jointe au téléphone. D'habitude, elle se fonde sur une collecte mensuelle d'environ 170 000 prix, mais en mars, c'était quasiment la moitié du tableau qui était vide, faute d'achats suffisants.
Reste que les institutions statistiques se sont adaptées et que certains veulent voir dans la crise une opportunité.
Oui, du côté des institutions, par exemple, l'INSEE notamment s'est reporté sur les données de caisse des supermarchés ou les données bancaires, non sans une marge d'erreur importante. Et puis en dernier recours, on a même conservé les prix des mois précédents plutôt que rien. La DARES, elle, l'Institut du ministère du Travail, a publié des statistiques de crise, télétravail, chômage partiel ou impayé. Et puis faute de données, en dernier recours, les analystes ont utilisé celles des opérateurs télécoms et ils ont même repris les bonnes vieilles cartes et graphiques d'embouteillage. La crise et la recherche d'un signe de reprise, alors peut-être promu des indicateurs habituellement négligés, mais on voit qu'on est loin de la fiabilité des statistiques classiques. Or, pour Jean-Marc Vittori, cette crise présente quand même un formidable défi pour les fabricants de chiffres qui nous aident à comprendre les mouvements de l'économie.
Une des solutions, Xavier, serait d'utiliser plus massivement les données haute fréquence. Ce sont les données privées issues des banques et sites d'achat en ligne.
Oui, c'est une des manières de résoudre le problème du délai de la collecte et de se rapprocher du temps réel et de la mobilité avec toutes les réserves éthico-juridiques que leur utilisation entraînerait, puisque la haute fréquence, c'est par exemple la consommation d'électricité, mais aussi l'internet marchand qui passe automatiquement par la case Google et Apple. Le directeur général de l'INSEE lui plaide pour une coopération durable, mais on voit que les institutions statistiques étrangères s'essayent également à la collecte de données haute fréquence. C'est par exemple le Truck Toll Mileage Index, dont les données sont collectées automatiquement par l'agence Destatis allemande, ou alors le Online Prices for High Demand Products, le bulletin des prix à très forte demande en ligne, publié par l'ONS britannique. Ces deux indicateurs sont tous deux annoncés comme expérimentaux, mais montrent déjà certains mouvements fondamentaux. Disons ainsi, du 9 au 16 août, le prix des pâtes sèches augmente le plus, mais le prix des sauces pour pâtes diminue le plus, laissant planer l'horrible soupçon que l'on a acheté trop de sauce pour pas assez de pâtes. Alors les instruments traditionnels sont gelés ou saturés par l'orage, les nouveaux manquent de fiabilité. Mais l'avion vole toujours, reste la réflexion sur les nouveaux indicateurs de richesse et la critique là assez radicale du PIB, mais c'est déjà un autre sujet.
Merci Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Écho. On se quitte avec le groupe lyonnais Trinix et leur titre Replay. Demain, notre Homo Covidus troque la casquette du travailleur pour celle du consommateur et de l'épargnant. Comment l'épidémie actuelle a-t-elle transformé nos comportements d'achat? On en parlera avec l'économiste Florence Legros. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou en podcast et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.